Bonjour à tous. Quel plaisir d'être réunis tous ensemble ce dimanche. Je viens de distribuer ces feuilles afin que vous puissiez suivre en même temps que moi le sermon. Il est noté les différents versets et des espaces sont faits pour que vous puissiez noter, prendre des notes. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez écrire au verso des feuilles. Je vois que certains ont le sourire. Eh bien, ça tombe bien. Le sujet de ce matin sera sur la joie du chrétien. Qu'est-ce que la joie ? La joie est un fruit de l'esprit. On peut le voir dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. On peut dire qu'il y a deux types de joie. Celle que peut proposer le monde, qui est temporaire. En effet, lors de la journée pour les jeunes de plus de 16 ans, organisée il y a 2 semaines par Moulin Vert, nous avions fait une liste concernant toutes les activités que le monde proposait pour s'amuser, telles que les boîtes de nuit, le sport, le restaurant, la salle de chicha, les parcs d'attractions, les bars, les cinémas, pour n'en citer que cela. Et j'en ai retenu 2 grandes idées de tout ce qui a été dit. La première est que tout n'était pas interdit, mais que tout n'était pas utile pour l'édification. La deuxième est que chacun doit bien s'analyser afin de ne pas se mettre inutilement en danger. Et puis on peut dire qu'il y a la joie du chrétien que Dieu nous propose et à travers son apôtre Paul. Il y a la joie profonde, celle d'être chrétien, qui permet de garder une certaine sérénité malgré toutes les circonstances que nous pouvons traverser. Cependant, la joie sur commande, ou faire semblant, qui consisterait à se forcer à donner aux autres une image qui montrerait que nous serions heureux alors qu'au fond de nous, ce n'est pas vrai. Ce serait donc une joie superficielle, momentanée. Mais Dieu nous demande d'être joyeux en permanence, continuellement. Alors on peut s'interroger sur pourquoi est-ce que les chrétiens, Dieu devrait toujours être joyeux. Je ne vais en citer que quelques raisons. Premièrement, la joie est un bon remède face aux difficultés. En effet, se comporter comme un être malheureux lors des épreuves ne fait qu'accentuer les effets des épreuves et nous empêche d'avoir de la force pour surmonter ces épreuves. Deuxièmement, nous savons que nous ne travaillons pas en vain. En effet, nous avons l'espérance d'une vie éternelle, ce qui n'a pas de prix et est donc une grande source de joie. Troisièmement, nous savons que Dieu nous aime. En effet, il nous le dit clairement dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis nous retrouvons cela en Matthieu 28, verset 20. Le fait de savoir cela nous rend heureux car nous savons que Dieu prend soin de nous. Quatrièmement, nous avons la joie car nous avons la chance d'avoir une relation avec Dieu, une intimité. On peut voir cela dans 2 Corinthiens 6, verset 18. Il est écrit « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles », dit le Seigneur Tout-Puissant. Cinquièmement, nous pouvons être en joie car nous avons le privilège de pouvoir revenir au Christ lorsque nous péchons. On peut voir cela grâce à travers l'histoire du Fils prodigue. L'histoire se trouve dans l'Évangile selon Luc 15, verset 11, immédiatement précédée par les paraboles de la brebis égarée et de la femme à la drache perdue. La parabole met en scène 3 personnages, le père, le fils aîné, qui suit les commandements de son père, et le deuxième, le fils prodigue, qui, lassé par la découverte du monde. Après avoir dilapidé sa fortune, il se retrouve sous le joug d'un autre maître, plus dur, qu'il finit par abandonner pour retourner vers son père, riche et doux. Celui-ci, heureux du retour de son fils, lui prépare une fête, ce que l'aîné ne comprend pas. La parabole se finit sur l'explication du père. Il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est vivant, il était perdu, et il est retrouvé. Remarque en parallèle avec la conclusion de la brebis égarée. Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, est-ce grave de ne pas toujours être joyeux? Dans 2 Corinthiens 6, verset 10, nous pouvons voir l'expression « comme attristé, mais toujours joyeux ». Comment est-ce possible? Eh bien, Dieu ne nous demande pas de nous réjouir de nos problèmes, car ce n'est pas réjouissant. Et il faut être honnête. Il ne faut pas se réjouir pour le problème. Et il ne faut pas remercier le Seigneur pour le problème. Il ne faut donc pas être surpris de nos problèmes. Cela fait partie de la réalité de la vie, tout en étant chrétien. Il ne faut donc pas remercier Dieu pour quelque chose qu'il ne nous a pas donné. En effet, Dieu ne nous fait pas de cadeaux empoisonnés. Je me réjouis dans le Seigneur et je traverse ma difficulté. On va se rendre compte qu'il y avait un problème, mais avec Dieu, on a réussi à passer. On est plus fort, on a plus confiance en Dieu, on a grandi. Cela doit fonctionner comme ça. On remercie Dieu et on se réjouit pour ce qu'il va pouvoir produire dans notre vie au travers des difficultés que nous avons. C'est possible d'avoir une joie complète dans les épreuves que nous traversons. Souvenons-nous que les circonstances de la vie ne doivent pas détruire notre joie. En effet, il est écrit en Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est donc l'espérance, au-delà des souffrances que nous vivons sur la terre, qui nous rend joyeux. Luc 10, verset 20, nous le rappelle. « Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans les cieux. » Dans Philippiens 3, verset 1, on retrouve les termes « réjouissez-vous ». Et plus loin, dans le verset 28, « en pleurant ». Paul montre une ambivalence entre ces deux propos. Sa joie est plus grande que la souffrance. Le chrétien est donc un être complexe qui peut trouver la joie au milieu de la souffrance. De plus, nous pouvons voir que dans la Bible, en Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour chaque chose. Dans le verset 4, il est précisé un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Donc, il est normal que par moment, nous soyons temporairement tristes. Mais alors, comment rester joyeux? Premièrement, la Bible nous parle du contentement. Alors, c'est quoi? On peut voir 1 Timothée 6, verset 6. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Et dans le verset 8, nous retrouvons « Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. » On peut voir aussi Hébreux 13, verset 5 et Philippiens 4, verset 11. À travers ces passages, Dieu nous apprend à être heureux avec ce que nous avons. Le contentement, c'est la joie de voir que Dieu nous donne toutes les choses dont nous avons besoin. La piété, c'est la crainte et la confiance envers Dieu. Psaume 112, verset 1. « Bienheureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend plaisir à ses commandements. » Le contentement est en relation avec les dons, la piété avec le donateur. Ces deux choses sont un grand gain, car elles nous apportent joie et paix. Deuxièmement, nous pouvons rester joyeux en continuant à donner, que ce soit de l'argent ou du temps, ou autre chose. On peut voir acte 20, verset 35. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. En effet, prenons un exemple. L'argent que nous donnons, par exemple, à quelqu'un qui serait en difficulté, pourrait l'aider à s'en sortir financièrement, et donc plus tard contribuer à ce qu'il retrouve la joie. Or, voir d'autres personnes en joie peut nous aider nous-mêmes à rester dans la joie. Et puis, cette personne qui a été aidée peut aider à son tour. Deuxième manière de voir le don d'argent. Que représente pour vous l'argent? Lisons Matthieu 20, verset 28. Il est dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » On voit le mot « rançon ». Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot rançon ? Dans le petit Larousse illustré 2011, la rançon est la somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu prisonnier. En hébreu, cela veut dire couvrir, utilisé pour payer la somme due. Imaginons, un jour, vous rentrez à la maison, un de vos enfants n'est pas là. Il n'est pas là. Il a disparu. Vous allez à la police. Il y a des recherches qui sont faites, mais toutes leurs recherches sont en vain. Il n'y a pas de résultat. Voilà que votre angoisse augmente de plus en plus. Vous n'arrivez plus à dormir. Vous êtes mal dans votre peau. Et voilà, vous vous posez des questions. Vous alertez tout le monde, puis un jour, au moment d'un désespoir total, vous recevez un coup de fil. Madame, monsieur, ne cherchez pas. Nous avons kidnappé votre enfant. Alors, deux choses. Premièrement, ne pas alerter les autorités, police ou gendarmerie. Et deuxièmement, voilà ce que nous voulons de votre part, une rançon. Les kidnappeurs vous contactent et disent qu'ils ont votre enfant. Les ravisseurs demandent une rançon. Et si par malheur, si vous prévenez la police, il arrivera malheur à votre enfant. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne réfléchit pas ? Sur le coup, on pourrait penser que c'est ignoble, inimaginable de s'attaquer à des enfants, ce qui est légitime des parents qui sont concernés par ces enfants. Et on peut même se demander pourquoi cela nous arriverait-il ? Est-ce que vous pensez qu'un parent qui aime son enfant ne va-t-il pas donner tout ce qu'il possède pour sauver son enfant ? Bien sûr que oui. Ainsi, Dieu a payé notre rançon et nous a racheté nos péchés en donnant son Fils unique qui s'était fait homme. On peut le voir dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Et nous, donnons-nous réellement à Dieu la première place ? Certes, vous pourriez me répondre, peut-être que vous assistez à chaque retraite, vous êtes là chaque dimanche, vous venez à chaque étude, chaque réunion. Certes, je ne dénigre pas cela. N'oublions pas que le chrétien est celui qui a donné sa vie à Christ. Ainsi, le don fait partie de sa vie. Peut-on mettre un prix à notre salut ? Comment je montre ma reconnaissance envers Dieu ? Paul qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le à la gloire de Dieu ». On peut voir cela dans Colossiens 3, verset 11. Est-ce que je manifeste ma reconnaissance envers Dieu seulement en étant présent, ou je le fais également avec les biens matériels qu'il m'a bénis? On peut voir Matthieu 6, versets 19 à 23. Là où est ton trésor, sera aussi ton cœur. Mais pourquoi les problèmes liés à ce monde d'ordre matériel, d'insécurité, prennent autant de place dans notre vie? N'est-ce pas une réelle manifestation d'une manque de confiance en Dieu? Ou peut-être que nous n'avons pas compris ce que Dieu nous dit en Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais pour obtenir du repos, et donc une véritable joie, et une véritable paix, et une vie sans souci, il faut recevoir ces instructions. Troisièmement, nous pouvons rester joyeux en passant du temps avec ses frères et sœurs en Christ. Nous sommes un corps. Donc lorsqu'une partie va mal, c'est tout le corps qui souffre. Et ainsi, lorsqu'une partie est dans la joie, c'est tout le corps qui est dans la joie, car nous ne formons qu'un. On peut le voir cela dans Romains 12, verset 15. Quatrièmement, nous pouvons rester joyeux en se rappelant de tout ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Et que si on y pense bien, nous serions incapables de compter tous les bienfaits que Dieu a fait pour nous. Cinquièmement, nous pouvons rester joyeux en se réjouissant dans le Seigneur. En effet, dans Philippiens 3, verset 1, il est dit « En se réjouissant dans le Seigneur, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Puis dans Philippiens 4, verset 4, il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Paul est sûr de ce qu'il dit. À quelques versets d'écart, il nous dit de nous réjouir. Remarquez qu'il précise de se réjouir dans le Seigneur. Notre joie ne vient donc pas de ce qui se passe autour de nous, mais notre joie vient du Seigneur et de notre relation avec lui. Or, le Seigneur ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si dans la parole de Dieu, nous arrivons aujourd'hui à découvrir que Dieu est dans la joie et que la joie fait partie de la vie que Dieu nous propose, cela veut dire que nous pouvons nous réjouir, car c'est en lui que l'on se réjouit. Ce genre de vie est pour nous tous. Pour ceux qui suivent le Seigneur, il y a de la joie. On a peut-être déjà entendu quelques personnes dire « Ah, c'est pas la joie ». C'est vrai que lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous, on peut le dire. Mais pour nous, si nous sommes positionnés en Dieu, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, il y a la joie. Nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit nous aide à réaliser que nous pouvons nous décider et que nous pouvons être dans la joie. C'est un style de vie. C'est quelque chose que l'on choisit. Cette joie ne dépend pas des circonstances parce qu'elle s'appuie sur le contrôle souverain de Dieu sur toute chose. Les circonstances ne doivent donc pas déterminer notre joie. Pour conclure, on peut donc dire que potentiellement, à l'intérieur de chacun de nous, il y a la joie de Dieu, la paix de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que la Bible dit que nous sommes et que nous avons, parce que Jésus est en nous, et le Saint-Esprit aussi. C'est à nous de le manifester à l'extérieur, afin que nous soyons vraiment des lumières pour ce monde, tel qu'il est dit dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Que Dieu vous bénisse. Amen.